J'avais l'honneur de recevoir comme maire de cette ville le drapeau du Conseil de l'Europe et Denis de Rougemont était au centre de nos réflexions liées aux communes et régions, base de l'Europe des personnes. Merci à tous ceux qui apportent une contribution pour le bon déroulement de cette manifestation, dont François Saint-Ouen avec l'équipe de la FEDRE, en tant que secrétaire général de la Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe, a été la cheville ouvrière et à laquelle s'est naturellement associé le Centre européen de la culture, présidé par le professeur Dujan Sikorski, et la Fondation Bodmer, présidée par le professeur Charles Médard. Nous apprécions l'appui de la ville et du canton de Genève et l'aide du cercle des dirigeants d'entreprise, le CDE. Celui de la Fondation FEDRE, la Fondation européenne pour le développement durable des régions, va de soi dès lors qu'elle est née au sein du Conseil de l'Europe, inspirée par la pensée de Denis de Rougemont pour conduire une action concrète. Une pensée s'envole cet après-midi vers Nanick de Rougemont, Jacques Frémont et Raymond Racine, membres fondateurs de la Fondation de Rougemont pour l'Europe, et Michel Bettig, qui en a facilité la création. Nous nous réjouissons d'accueillir cet après-midi le fils et la fille de Denis de Rougemont, Nicolas et Martine, son petit-fils et sa petite-fille, Philippe et Armel, Yves de Rougemont, les deux enfants de Nanick, Jean-Blaise Emler et sa sœur Réanne, le représentant du Conseil de l'Europe, mon ancien collègue Jean-Claude Van Covenberg, ancien chef du gouvernement de la Wallonie, le directeur de l'Office fédéral de la culture, Jean-Frédéric Josselin, qui arrive directement de Venise, les autorités de la République et canton de Genève sont représentées par le conseiller d'État Laurent Guignot et par Madame la première vice-présidente du Grand Conseil, Madame Marais. Monsieur Jean Catin, président du conseil municipal communal de Couvet, qui est la commune d'origine de Denis de Rougemont, nous fait l'honneur d'être à Genève cet après-midi avec quelques autres personnalités de la commune. Bienvenue également aux élus nationaux, régionaux, cantonaux et municipaux, aux diplomates et membres d'organisations internationales, et à vous toutes et à vous tous. Vous avez reçu le dernier programme, vous l'avez à disposition, qui vous permet de suivre le déroulement de cet après-midi, qui se terminera par un apéritif après 17h30, et deux intermèdes musicaux agrémenteront cette cérémonie. Mesdames et messieurs, quel sens voulons-nous donner et faut-il donner à ce 100e anniversaire de la naissance de Denis de Rougemont ? Honorer sa mémoire et son œuvre, certes, mais aussi approfondir cette dernière pour mieux se projeter vers l'avenir. Les diverses interventions que vous entendrez retraceront le chemin de cette exceptionnelle vie spirituelle, intellectuelle et historique. Il y a lieu aujourd'hui de se rappeler ou de découvrir la puissance et l'ampleur de la pensée de Denis de Rougemont et sa capacité d'initier et d'engager l'action. L'homme de pensée avec ses mains retroussait ses manches et en sportif qu'il était, en tout cas au temps de sa jeunesse, sur le terrain, se battait. Son œuvre et ses engagements sont construits autour d'une idée de l'homme, en tant que personne, opposée à l'individu qui s'isole et rejette le sens de la solidarité. L'homme doit être libre et ne l'est que s'il est responsable. L'État et ses corps administratifs ne peuvent s'emparer de l'ensemble des activités d'un pays sans déresponsabiliser ceux qui l'habitent. Pour développer ses critiques et réflexions, Denis de Rougemont entendait être complètement libre. Ses lieux de confrontation d'idées devaient être largement ouverts. Les partis politiques, il se distançait, les trouvant trop rigides pour accepter de vrais et vifs débats porteurs de réformes profondes. Musicien que ce Vassal apprécie ce passage. De Rougemont jugeait sans doute l'ensemble des partis trop conservateurs pour cela. C'est pourquoi, avec ses amis des cercles de pensée, de Paris notamment, il entendait se situer en dehors d'eux avec une devise, ni gauche ni droite, mais en avant des problèmes. Devant l'affaiblissement de l'influence, voire d'une certaine déliquescence des formations politiques traditionnelles et leur besoin de se réformer dans l'ensemble du monde occidental et démocratique, le sujet est d'une brûlante actualité. La personne est donc au centre de sa vision des institutions et de la construction fédéraliste européenne qu'il imagine. De Rougemont promeut le principe de subsidiarité avant qu'il n'en porte le nom. Ceci signifie que l'entité la plus proche du citoyen, en général la commune, puis la région, soit compétente pour toutes les activités qui ne justifient pas, par souci d'efficacité de coût, de passer à l'État central et encore moins dans des structures administratives européennes ou internationales qui démantèleraient les identités régionales et les diversités culturelles au profit d'une unification appauvrissante. La personne, la famille, puis la communauté de proximité, celle dans laquelle on grandit et où on partage le quotidien, sont pour lui les fondements de notre société. À ce niveau, la nature nous est proche. Il est aisé de l'observer, de prendre conscience de sa fragilité. De Rougemont a constaté qu'on la martyrisait alors qu'elle est source de vie. Le célèbre naturaliste Genevois nous en avait fait découvrir les richesses. Ils ont démontré ce qu'étaient les subtils équilibres écologiques planétaires et ont fait de notre cité un centre de référence. De Rougemont a compris que le développement économique légitimement recherché dès l'après-guerre, porteur de prospérité et de bien-être, véhiculait aussi les effets pervers qu'il fallait combattre. La bataille pour un développement qualitatif, respectueux de la nature, était lancée. C'était il y a une quarantaine d'années, et l'on couvrait de ridicule ceux qu'on appelait encore écolos sur un ton méprisant. Peu avant sa mort, de Rougemont pensait que la cause écologique avait fait des progrès gigantesques dans le monde entier. La raison l'aurait emporté. Tel n'est malheureusement pas le cas. Sur ce point aussi, l'influence du pouvoir local et la responsabilité de la personne sont déterminantes. De Rougemont avait une belle formule en définissant la région comme une grappe de communes avec ses villes et villages. La région est pour lui un espace naturel à taille humaine, ne s'arrêtant pas sur une frontière politique. Là, on préserve son identité, ses valeurs, son histoire. Nullement replié sur soi-même, on s'ouvre volontairement vers l'extérieur dans un esprit fédéraliste respectant la culture de chacun. Jean Monnet a longtemps observé de Rougemont avec un peu de condescendance. Il aurait pourtant finalement admis qu'il eût fallu commencer la construction de l'Europe par la culture, dont ce dernier ne minimisa point dans ses écrits l'importance, et protesta même contre le dédain dans lequel souvent on la tient. Genève doit beaucoup à ceux qui, venus d'ailleurs, s'y sont installés et ont contribué grandement à son évolution, à son ouverture sur le monde, à sa réputation. Denis de Rougemont, continuateur de l'esprit de Genève, en est un exemple remarquable. Certes, citoyen suisse, mais venu d'ailleurs, ce natif de Couvet, dans le Val de Travers, cette partie du haut du canton de Neuchâtel, a surtout beaucoup voyagé avant de s'installer ici après son retour des États-Unis en 1947. Pionnier de la région transfrontalière, il l'expérimenta concrètement puisqu'il vécut d'abord à Ferney-Voltaire, puis à Saint-Genis-Pouilly en France voisine et travailla de nombreuses années dans la villa moignée du parc Montreux qui accueillait, grâce à la ville de Genève, le Centre européen de la culture et l'Institut universitaire d'études européennes qu'il avait créé. Avant de l'animer depuis Genève, c'est à l'étranger que de Rougemont s'ouvrit sur son dialogue des cultures. En 1930, licence en poche, âgé de 24 ans, il quitte son canton pour Paris. Jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, il passe plusieurs années qu'il qualifie d'extraordinaires et y trouva de multiples écoles de pensée nouvelles. Avec ses amis venus des quatre coins de l'Europe, il développe des théories politiques basées sur un fédéralisme qui n'est naturellement pas de mise dans la capitale de l'Hexagone, si centralisateur. C'est à Paris qu'il publie notamment Politique de la personne et Pensée avec les mains. En 1935-36, cherchant du travail, il s'installe à l'université de Francfort où il est lecteur français. Il assiste à un discours d'Hitler, événement pour lui marquant et traumatisant. Dans son journal d'Allemagne paru en 1938, il dira tout le mal qu'il pense du nazisme, interprété comme un paganisme délirant, célébrant le culte du nationalisme. Juste avant la guerre, de Rougemont sort son livre le plus connu, « L'amour et l'Occident » que d'autres intervenants évoqueront cet après-midi. Il figure parmi les fondateurs de la Ligue du Gothard, avec des gens de droite et de gauche, prenant prônant une résistance déterminée à Hitler. Le 15 juin 1940, apprenant l'entrée des Allemands dans Paris, il est sous le choc et écrit spontanément deux pages qui ne sont pas neuves pour la Gazette de Lausanne. Curieusement, la censure interne les laisse passer. On fait la première page et titre. À cette heure où Paris exsangue, voile sa face de nuage et se tait. Déclaré aux arrêts pour atteinte à la neutralité et mise en péril de la sécurité de la Suisse, cet officier devint si gênant dans notre pays qu'on l'expédia en mission de conférence le plus loin possible aux États-Unis. Il y restera jusqu'en 1947. En Amérique, il continue de publier et prolonge ses réflexions sur le nazisme et le totalitarisme. Il rédige des bulletins radiophoniques français de la Voix de l'Amérique destinés aux résistants. Revenu définitivement en Europe en 1947, il se bat pour que le vieux continent devienne le premier noyau d'un fédéralisme mondial. L'écrivain se mue alors en militant européen. Il est un des personnages clés d'événements décisifs, comme le célèbre congrès de La Haye en mai 1948, présidé par Winston Churchill, en présence notamment de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, dont l'importance dans la construction européenne est historique. Il est à la fois rapporteur de la Commission culturelle et rédacteur de la Déclaration finale. Cette dernière jette, entre autres, les bases de ce qui deviendra le Conseil de l'Europe, qu'on aime appeler aujourd'hui et pour cause cette école de la démocratie, et la Cour européenne des droits de l'homme. Il va ensuite développer son idée originale de la construction de l'Europe par la culture. C'est ainsi qu'il organise en décembre 1949 à Lausanne la première conférence européenne de la culture qui donne une impulsion décisive à la création du Centre européen de la culture inauguré à Genève en octobre 1950 dont il prend la direction. En 1954, il crée également à Genève la Fondation européenne de la culture qui s'installera ensuite à Amsterdam dès 1957. Et au Centre européen de la culture dont Rougemont déploie de nombreuses activités pionnières, n'est-il pas à l'origine, dès décembre 1950, de la création de ce qui sera le CERN, expression de sa volonté d'européaniser la recherche de points. C'est vrai qu'il avait trouvé au sein du Conseil fédéral un certain appui auprès de son beau-frère pour que les choses puissent se concrétiser dans ce sens-là, c'est dire à quel point les relais étaient utiles. Il lance à travers le Centre européen de la culture de nombreuses initiatives, dont la campagne d'éducation civique européenne qui va durant près de 15 ans former des enseignants du primaire et du secondaire pour qu'ils puissent initier leurs élèves à la problématique européenne. Soucieux de mettre véritablement le citoyen au centre de la construction européenne, il donne à partir des années 1960 à l'Europe des régions la forme d'espace de participation. Cet accent sur le civisme et sur les régions comme espace de participation mènera Denis de Rougemont dans les 20 dernières années de sa vie à intensifier sa réflexion sur l'écologie et son opposition absolue à l'énergie nucléaire que l'on développe sans maîtriser la totalité du site. Cette réflexion culminera dans son dernier grand ouvrage, L'avenir est notre affaire, paru en 1975. Tiraillé au départ dans sa prise de conscience morale, fréquente ce cercle parisien notamment, que si entre plusieurs sources contradictoires, le jeune homme fixa son cap et jusqu'à son dernier souffle, de Rougemont s'est mis au service d'une société dont l'homme, en tant que personne libre et responsable, est le centre. Tous les espoirs passent par ce cheminement. Que faisons-nous de cet exceptionnel héritage? De cela, nous en parlerons durant cette cérémonie d'anniversaire, que nous voulons, porteuse d'espoir, tourner vers l'avenir, et notre discours de conclusion contiendra des suggestions concrètes pour que l'avenir soit vraiment notre affaire. Merci de votre attention. J'ai le plaisir de porter la parole au fils de Denis de Rougemont, à Nicolas, pour la lecture du message aux Européens. Le voyage pour venir à Genève plus long, c'est du cap que vous venez.
Message aux Européens. L'Europe est menacée, l'Europe est divisée et la plus grave menace vient de ces divisions. Appauvrie, encombrée de barrières qui empêchent ses biens de circuler mais qui ne sauraient plus la protéger, notre Europe désunie marche à sa fin. Aucun de nos pays ne peut prétendre seul à une défense sérieuse de son indépendance. Aucun de nos pays ne peut résoudre seul les problèmes que lui pose l'économie moderne. À défaut d'une union librement consentie, notre anarchie présente nous exposera demain à l'unification forcée, soit par l'intervention d'un empire du dehors, soit par l'usurpation d'un parti du dedans. L'heure est venue d'entreprendre une action qui soit à la mesure du danger. Tous ensemble, demain, nous pouvons édifier avec les peuples d'outre-mer associés à nos destinées la plus grande formation politique et le plus vaste ensemble économique de notre temps. Jamais l'histoire du monde n'aura connu un si puissant rassemblement d'hommes libres. Jamais la guerre, la peur et la misère n'auront été mises en échec par un plus formidable adversaire. Entre ce grand péril et cette grande espérance, la vocation de l'Europe se définit clairement. Elle est d'unir ses peuples selon leur vrai génie, qui est celui de la diversité, et dans les conditions du XXe siècle, qui sont celles de la communauté, afin d'ouvrir au monde la voie qu'il cherche, la voie des libertés organisées. Elle est de ranimer ses pouvoirs d'invention pour la défense et pour l'illustration des droits et des devoirs de la personne humaine, dont, malgré toutes ses infidélités, l'Europe demeure aux yeux du monde le grand témoin. La conquête suprême de l'Europe s'appelle la dignité de l'homme et sa vraie force est dans la liberté. Tel est l'enjeu final de notre lutte. C'est pour sauver nos libertés acquises, mais aussi pour en élargir le bénéfice à tous les hommes que nous voulons l'union de notre continent. Sur cette union, l'Europe joue son destin et celui de la paix du monde. Soit donc notoire à tous que nous, Européens, rassemblés pour donner une voix à tous les peuples de ce continent, déclarons solennellement notre commune volonté dans les 5 articles suivants qui résument les résolutions adoptées par notre Congrès. Engagement. 1. Nous voulons une Europe unie, rendue dans toute son étendue à la libre circulation des hommes, des idées et des biens. 2. Nous voulons une charte des droits de l'homme, garantissant les libertés de pensée, de réunion et d'expression, ainsi que le libre exercice d'une opposition politique. 3. Nous voulons une Cour de justice capable d'appliquer les sanctions nécessaires pour que soit respectée la charte. 4. Nous voulons une Assemblée européenne où soient représentées les forces vives de toutes nos nations. 5. Et nous prenons de bonne foi l'engagement d'appuyer de tous nos efforts, dans nos foyers et en public, dans nos partis, dans nos églises, dans nos milieux professionnels et syndicaux, les hommes et les gouvernements qui travaillent à cette œuvre de salut public, suprême chance de la paix et gage d'un grand avenir pour cette génération et celle qui la suivra.
Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, si vous me le permettez, c'est avec un très vif plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour représenter Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe lors de cette cérémonie demain. Deux raisons au moins expliquent cette satisfaction. D'abord, l'attrait irrésistible qu'exerce sur des régionalistes viscéraux comme votre serviteur, la personnalité exceptionnelle de Denis de Rougemont, qui demeure une référence intellectuelle pour tous les fédéralistes. Ensuite, sur un plan plus personnel, l'occasion ainsi offerte de retrouver Claude Aiguillet, un vieil ami avec qui j'ai beaucoup travaillé pour développer l'idée fédéraliste au sein de la Grande. Si vous le permettez, avant d'émettre quelques considérations personnelles, je commencerai par vous lire le message que M. Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l'Europe, tenait à vous adresser. Je le cite. Denis de Rougemont a été un grand défenseur des valeurs de base de la démocratie locale et régionale. Ses talents d'orateur et d'écrivain ont exercé une influence certaine sur de nombreux jeunes Européens qui se sont lancés dans la défense des idées européennes et régionales. En tant que rapporteur à la première conférence européenne des régions frontalières à Strasbourg en 1972, conférence organisée conjointement par l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, il a su donner une dimension politique à la coopération transfrontalière des collectivités locales et des régions, qui a conduit par la suite à l'adoption par le Conseil de l'Europe de la Convention cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités locales, ainsi que de nombreuses autres déclarations ministérielles. Denis de Rougemont a été, poursuit le secrétaire général, un visionnaire et un précurseur. Je tiens à honorer sa mémoire et à encourager toutes celles et tous ceux qui approfondissent sa pensée, en particulier s'agissant des questions régionales. Nul doute, poursuit le secrétaire général, qu'il serait intéressé de voir les développements actuels du Congrès du Conseil de l'Europe, qui est à l'origine de la création d'une euro-région adriatique et contribue à développer une telle initiative dans la mer Noire. Dans le même esprit, le Congrès a lancé le projet d'un centre européen de coopération interrégionale et transfrontalière à Saint-Pétersbourg, qui vise à développer la coopération entre les régions européennes et à dépasser les clivages et les frontières entre l'Europe de l'Ouest et la Fédération de Russie. Mesdames, Messieurs, partageant totalement cette appréciation, j'ajouterai à ces propos que, pour moi, Denis de Rougemont continue d'impressionner par son côté visionnaire. Car il faut avoir su anticiper, avant les autres, les mouvements en germe dans nos sociétés pour écrire, dès 1970, je cite, « La région est aujourd'hui l'unité opérationnelle de base du fédéralisme européen et à ce titre, elle va devenir le thème politique le plus important des années qui viennent. » Et il est vrai que plus aucun État, pas même l'Union européenne, n'échappe au débat sur la décentralisation, la subsidiarité, le régionalisme, voire le fédéralisme. Et que l'utilité de ce niveau de pouvoir intermédiaire entre l'État et la commune est aujourd'hui analysée partout dans le monde. Certes, cet idéaliste sans bornes et sans frontières, qui affirmait avec une certaine radicalité, je cite, « Il faut défaire et dépasser l'État-nation en instaurant les régions en deçà et la fédération au-delà. » Cet homme serait sans doute déçu de l'évolution de l'Union européenne. Cette évolution qui, loin s'en faut, ne va pas dans le sens d'une fédération d'États et encore moins dans le sens d'une Europe des régions. Une Europe des régions dont j'ai moi-même été amené à montrer dans un ouvrage récent qu'elle n'est finalement guère réalisable. Raison pour laquelle, avec d'autres, nous militons pour l'émergence non pas d'une Europe des régions, mais d'une Europe avec les régions, mobilisant les 247 régions diverses que compte l'Europe des 25. En revanche, on ne peut que mesurer combien Denis de Rougemont avait vu juste en pressentant que les régions, quelle que soit leur forme institutionnelle, seraient des socles forts de nos États modernes, qu'elles seraient un élément déterminant de leur bonne santé démocratique, qu'elles seraient, pour reprendre ses propres termes, les vraies unités socio-économiques de l'Europe d'aujourd'hui, évoquant je cite, « ces autonomies d'un type nouveau, aptes à coopérer entre elles d'une part et à animer la vie sociale et culturelle et donc la participation civique d'autre part. » À cet égard, mesdames, messieurs, je voudrais attirer votre attention et votre intérêt sur le combat que nous devons continuer à mener au sein du Conseil de l'Europe et en particulier au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Un combat qui doit toujours être relancé pour défendre nos collectivités territoriales devant la tendance trop naturelle de beaucoup d'États de vouloir récupérer par divers procédés des pouvoirs concédés en vertu de la décentralisation et de la dévolution. Une vraie politique du yo-yo régional face à laquelle nous devons faire preuve de la plus grande vigilance. Cerise amère sur le gâteau, faut-il en ce sens rappeler que nous célébrerons tristement l'an prochain le 10e anniversaire du refus par les États du Conseil de l'Europe d'accepter une charte européenne de l'autonomie régionale. Une charte qui, à l'instar de sa cadette locale, préciserait le noyau minimal et modulable des droits et des obligations des régions, en d'autres mots, qui définirait les traits communs du régionalisme européen. Mais rien n'est définitif tant que la détermination régionaliste demeure. Comme rapporteur du Congrès, je prépare un rapport destiné à relancer le débat et la dynamique d'adoption d'un tel instrument international. Entêtement, en aucun cas, mais simplement la volonté et la conviction forte que le régionalisme est une levure pour la modernisation des pays, un stimulant créatif pour des actions innovantes et un catalyseur d'implication citoyenne. J'incline aussi à penser que chargé d'histoire, de vécu, de projet, d'identité, de relations de proximité, de sentiment d'appartenance, la région est un niveau institutionnel capable de susciter encore des émotions politiques utiles au renforcement démocratique. Un niveau de pouvoir idéalement positionné pour susciter ou faire renaître l'intéressement et la participation des citoyens. En ce sens, Alexis de Tocqueville, qui inspira d'ailleurs Denis de Rougemont, ne constatait-il pas dès 1848, je cite, que l'État ne peut embrasser tout seul tous les détails de la vie d'un peuple. Plus récemment, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin déclarait « L'État actuel ne peut répondre au succès ou à l'échec de toutes les parties de son territoire ». C'est pourquoi nous sommes nombreux à penser que les régions sont une chance à saisir en Europe, qu'elles peuvent montrer leur savoir-faire en matière de nouvelle gouvernance, tout comme elles peuvent, comme l'affirmait l'ancien président de Catalogne Jordi Pujol, constituer des contrepoids à cette mondialisation qui inquiète et que nous devons contrôler, réguler et contrebalancer. J'ajouterai enfin, en conclusion de ce plaidoyer pro-régional, que contrairement à une idée trop souvent véhiculée, un régionalisme ouvert et tolérant peut constituer un antidote au séparatisme et dès lors, loin d'affaiblir l'intégrité nationale, peut au contraire contribuer à son renforcement. La démonstration est faite qu'une meilleure distribution des pouvoirs et des compétences entre plusieurs niveaux de gouvernement peut ainsi contribuer au maintien de l'unité nationale si pour des raisons culturelles, ethniques, linguistiques, confessionnelles ou d'autres facteurs de différenciation, l'adhésion à un État unitaire est mise en cause par des tendances séparatistes. La situation de mon pays, la Belgique, est en cela exemplaire, puisqu'il y a gros à parier que nous n'aurions jamais pu célébrer le 175e anniversaire de son indépendance si nous n'avions pu fêter au même moment notre quart de siècle de fédéralisme. Mesdames, Messieurs, chers amis, il m'a plu de tenir ces propos forcément ramassés devant vous à l'occasion de cette commémoration. En constatant que l'imprégnation des idées et des réflexions de Denis de Rougemont dans la pensée fédéraliste européenne reste forte, reste actuelle, n'est-ce pas finalement le trait caractéristique des grands esprits ayant marqué leur temps? Poser la question, c'est y répondre. Merci de votre attention.
Je savais, en découvrant que
Jean-Claude Van Covenberg avait été choisi par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, que ce dernier, le secrétaire général, n'avait pas pris de risque au sujet du plaidoyer en faveur du fédéralisme. Non pas simplement parce que M. Van Covenberg est belge, ce qui est une qualité supplémentaire, mais parce qu'en effet, depuis tant d'années, il plaide pour cette dimension à laquelle Denis de Rougemont a porté son œuvre. Et cela nous fait du bien, Jean-Claude, d'entendre un tel message cet après-midi. Merci. Les messages venant d'ailleurs, au-delà de nos frontières, ont toute leur importance, mais ici à Genève, nous sommes rassurés lorsqu'une personnalité fait le chemin de Berne. Et dans le cas particulier, c'est M. le directeur de l'Office fédéral de la culture, qui nous honore, M. Jean-Frédéric Jocelyn, qui nous honore de sa présence. Merci d'être venu cet après-midi, comme j'ai revu tout à l'heure. Je sais que vous aviez un voyage un peu compliqué, et vous avez tenu votre promesse.
Monsieur le conseiller d'État, monsieur le représentant du Conseil de l'Europe, monsieur le président de la Fondation, mesdames et messieurs les membres de la famille de Denis de Rougemont, mesdames et messieurs, chers amis. Effectivement, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Genève, d'abord parce que je constate que le vol que j'ai dû prendre, puisque j'inaugurais hier soir la manifestation de la Biennale d'architecture à Venise, m'a permis d'arriver à temps en passant par Zurich avec notre compagnie suisse. Donc, nous arrivons encore à l'heure de temps en temps, c'était un peu juste, mais enfin, nous sommes arrivés. Je me sens très honoré, et c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous apporter bien sûr les salutations des autorités fédérales, mais aussi parce que je me sens très lié à Denis de Rougemont pour de nombreuses raisons. Lorsque M. Claude Aigui m'a demandé il y a quelques temps si j'étais d'accord de participer à cette manifestation, c'est avec grand plaisir que j'ai répondu positivement. Pourquoi ? Parce que, et ça s'entend, je suis neuchâtelois comme lui, je suis néologue, c'est pas très loin de Couvet, donc ça met des liens. C'est vrai que, on l'a entendu, Denis de Rougemont était un grand voyageur, je n'ose pas prétendre à cela, mais quand même, je dois passablement me déplacer dans ma fonction. Et aussi parce que je suis très reconnaissant aux personnes qui ont permis la réalisation de cette Europe que nous sommes en train de construire, notamment au niveau du Conseil de l'Europe, puisque vous le savez peut-être, j'ai présidé la conférence des directeurs des bibliothèques nationales d'Europe qui regroupe tous les directeurs des bibliothèques nationales des pays membres du Conseil de l'Europe, et que j'ai pu voir dans un cadre culturel la richesse que nous pouvons avoir à échanger, à communiquer, à travailler ensemble avec tous les pays de l'Europe. Et donc, c'est donc avec honneur et satisfaction que je suis là aujourd'hui. Depuis bientôt 15 ans, j'arpente les couloirs d'un bâtiment que peut-être certains d'entre vous connaissent, celui de la Bibliothèque nationale à Berne. Si vous ne le connaissez pas, je vous y invite volontiers à venir le découvrir. J'ai depuis l'année passée le plaisir de poursuivre ma fonction dans ces mêmes locaux, puisque le siège de l'Office fédéral de la culture se trouve justement dans la Bibliothèque nationale. Et je me plais à imaginer, dans cette bibliothèque nationale, Denis de Rougemont, aux environs de 1940, fringant officier de l'armée suisse, déambuler dans ces mêmes couloirs et compulser des dizaines de documents sur la Suisse pour la section de l'état-major général, armée et foyer. Anecdote figure d'ailleurs dans le journal d'une époque. Cette vision a bien sûr inspiré un petit peu mes propos d'aujourd'hui, qui touche à Denis de Rougemont, à la défense spirituelle et bien sûr à la politique culturelle de notre pays en général. Les historiens ont été très nombreux dès les années 70 à critiquer la défense spirituelle. Ce courant politique et culturel voit ses origines remonter aux années 1880-1920. Il s'épanouira pleinement durant l'entre-deux-guerres et aboutira à sa charte qui date de décembre 1938, le message du Conseil fédéral concernant les moyens de maintenir et de faire connaître le patrimoine spirituel de la Confédération. Les uns ont dénoncé les malentendus et les ambiguïtés de cette défense de nos valeurs nationales. D'autres ont voulu y voir des tendances ultra-conservatrices, voire national-socialistes et même fascistes. Ce courant drainait en fait des tendances fort diverses. les adeptes de la défense spirituelle ne sauraient être rangés dans l'une ou l'autre de ces catégories, et c'est mon intime conviction. Certaines conférences de Denis de Rougemont, reprises dans Mission ou Démission de la Suisse, nous le font voir sous un angle tout particulièrement intéressant. Rougemont interpelle alors ses compatriotes, les incitant à résister sans compromis aux idéologies nationales-socialistes et fascistes. Ces conférences sont un plaidoyer vibrant en faveur d'une pensée libre et responsable. Mobilisé le 2 septembre, Denis de Rougemont est très vite transféré à la justement cette section armée et foyer de l'état-major général de l'armée à Berne. L'objectif de cette section créée par le général Bizan est d'éduquer les soldats, de maintenir le moral de l'armée, d'entretenir un esprit de défense et de responsabilité en organisant des débats et des conférences. C'est là que Rougemont est envoyé potasser l'histoire suisse, disant d'ailleurs, non sans humour, de sa situation, je cite, « Ainsi, les uns creusent le sol aux frontières, et moi je fouille et je pioche une bibliothèque. » Fin de citation. Que retenir de Denis de Rougemont, mesdames et messieurs? Pour les instances fédérales, le soutien à la culture que je représente, Denis de Rougemont est porteur de deux messages qui prennent tout leur sens aujourd'hui. En premier lieu, il met en évidence, bien sûr, la responsabilité civique, défendant avant tout le maintien d'un idéal démocratique, fondé sur la liberté d'expression et sur la poursuite d'un consensus, ce cher consensus que nous connaissons si bien en Suisse, et qu'il défendait de manière aussi large que possible. En second lieu, et cela me paraît plus fondamental encore, Denis de Rougemont défend l'engagement intellectuel conçu non pas comme un militantisme sectaire au service d'une idéologie, mais au sens d'une résistance morale et spirituelle basée sur une philosophie propre. L'État et la culture divergent profondément dans leurs intérêts, pensons souvent. Le rôle de l'État et le rôle de la culture dans la société seraient antagonistes. L'histoire de la politique culturelle de la Confédération depuis 1945 tend à confirmer cette vision des choses. Depuis la fin des années 60, on ne parle plus guère de défense spirituelle. Dans les années 70 et 80, différentes conceptions des rapports entre la culture et l'État ont vu le jour et se sont affrontées dans les médias. Plus proche de nous, au tournant de l'année 2004, les débats soulevés par la fameuse affaire Hirschhorn ont remis en cause l'image de la Suisse à l'étranger, la place de l'artiste dans notre société et le rapport entre l'art et l'État. Quant à la Fondation Pro Helvetia, son travail et son budget font régulièrement l'objet de nouvelles attaques. Je me sens dans une position particulièrement délicate, puisque vous le savez, le budget de Pro Helvetia fait partie du budget de la Confédération, mais bien sûr de l'Office fédéral de la culture, et donc je dois, comme on dit, ménager la chèvre et le chou en essayant de défendre les intérêts d'une fondation qui, de temps en temps, je l'avoue, joue un rôle un petit peu d'indépendance. Mais bien avant que n'éclatent les remous causés par l'exposition du Centre culturel suisse à Paris, les parlementaires avaient déjà confié au Conseil fédéral le mandat de revoir les tâches de Pro Helvetia, ses compétences et son rôle. Vous savez que nous allons revenir dès l'année prochaine avec la loi sur l'encouragement à la culture et une révision de la loi sur Pro Helvetia. Je suis sûr que les débats parlementaires vont être assez houleux. Pour ma part, il est vrai que l'Office fédéral de la culture n'existe que depuis 1975. Et je dois dire que lorsque je discute avec des collègues des autres pays européens et que je leur dis que notre base constitutionnelle ne prévoit que la Confédération ne parle, et encore, que de façon subsidiaire de la culture depuis 1999 et que nous n'avons pas encore une loi, ils sont un peu étonnés de l'apprendre en disant « c'est vrai que ce phénomène culture n'est peut-être pas pris à Berne avec tout le sérieux qui serait nécessaire. » Dans un contexte de changement pour la politique culturelle suisse, la figure de Denis de Rougemont permet de reprendre du recul, de s'interroger sur les attentes que peut avoir l'État de la culture d'une part, sur les enjeux que présente la culture pour l'État d'autre part. Il préconise, comme les postures réactionnaires, contre la résistance au changement, une interrogation constamment renouvelée sur la réalité de notre monde, une résistance au totalitarisme et aussi au conformisme. L'attachement de Denis Rougemont au fédéralisme fait écho dans la notion actuelle de la diversité culturelle notion défendue au niveau universel et pour laquelle la Suisse s'est battue ces derniers temps, et l'office que je dirige s'est aussi battu pour que cette fameuse diversité culturelle puisse être acceptée au niveau de la convention de l'UNESCO. Il s'agit maintenant de ratifier dans notre pays cette convention, ce que nous allons faire dans ces prochains temps. Denis de Rougemont nous permet enfin d'appréhender notre place dans la société et le rôle de la culture avec le courage intellectuel dont lui-même a fait preuve. Je crois que c'est le message le plus important. J'aimerais terminer en remerciant bien sûr les organisateurs de cette journée, remercier de vitaliser ou revitaliser l'image de Denis de Rougemont, et je crois que c'est nécessaire. Pas plus tard que hier soir, je discutais encore avec des collègues alémaniques qui me disaient ne pas connaître du tout, ou alors très peu, Denis de Rougemont et sa pensée. Et je crois que nous avons besoin, au niveau de notre pays, d'avoir des penseurs comme était Denis de Rougemont. Merci aux organisateurs et bonne journée.
Monsieur le directeur, dans votre conclusion, vous prenez les risques de nous revoir assez rapidement, parce que, en effet, c'est ce que nous tentons de faire mieux connaître son œuvre, non seulement dans cette région-ci, mais un peu plus en Suisse alémanique. Nous avons un travail à entreprendre dans ce sens. Je me tourne maintenant vers M. Laurent Moutineau, le conseiller d'État, qui nous porte le message du gouvernement genevois. Je vais vous dire, M. Moutineau souhaiterait que... D'abord, c'est vrai qu'on a du matériel qui nous est pas familier, Pierre Laurent. Le cadre musical, on le pratique d'une autre façon en général. Alors, on ne peut pas vraiment s'appuyer. On a fait remarquer que le Bouche avait des trucs de ce genre pour parler. Et j'ai l'impression que vous avez une réflexion comme ici, mais je pense que ça répondra néanmoins à tes besoins.
Mesdames et messieurs les membres de la famille de Denis de Rougemont, cher Pascal, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, mesdames et messieurs, c'est avec un vif plaisir que je représente aujourd'hui le Conseil d'État de la République et canton de Genève à la commémoration pour le 100e anniversaire de Denis de Rougemont. Vif plaisir mêlé d'une certaine crainte, car a priori je ne voyais pas très bien comment un modeste politicien pouvait apporter quelque chose à des débats de très haute tenue. Alors, si l'on entend être digne de la pensée de Denis de Rougemont, il faut certainement aujourd'hui être quelque peu iconoclaste et je vais me risquer à cet exercice en vous disant très clairement que mes propos n'engagent que moi. Denis de Rougemont a combattu le totalitarisme, a combattu le matérialisme, comme cela nous a été rappelé. Et finalement, de ses travaux, on retire qu'il s'est engagé pour une définition de la personne humaine qui ne puisse ni la servir, ni la déresponsabiliser. Le personnalisme, qu'il soit chrétien comme celui d'Emmanuel Mounier ou qu'il ne le soit pas, a toujours cette caractéristique que la personne humaine est considérée comme unique, d'une part, et comme membre d'une communauté, d'autre part, que la personne humaine, d'une part, est libre, et que, d'autre part, elle est responsable en tant que citoyen, en tant que membre d'une collectivité. Et c'est, je crois, sur cette base-là que Denis de Rougemont s'est intéressé à la question de savoir quel était le meilleur système politique qui puisse garantir à l'être humain cette double qualité de liberté et de responsabilité. On le voit à travers de ses œuvres, l'État-nation n'apparaît manifestement pas comme le bon modèle. Les dérives totalitaires de l'État-nation sont connues, les dérives administratives sont stable. Et c'est à partir de là que Daniel Boulogne fonde sa pensée, ou plutôt promeut la double idée du fédéralisme et des régions. Mais un fédéralisme qui n'est pas, comme il a malheureusement trop souvent cette caractéristique en Suisse, qu'il ne s'agit pas d'un fédéralisme conservateur, étroit, parce que je suis très volontiers fédéraliste. C'est une très belle idée, surtout malheureusement en Suisse, qu'elle est trop souvent monopolisée pour des causes assez, disons, conservatrices. Quant aux régions, le président de la Wallonie l'a rappelé tout à l'heure, la région doit être quelque chose de dynamique, non pas d'égoïste, non pas de fermé, mais une région aussi. Alors à partir de là, c'est là où je travaille sans filet. Deux questions d'iconoclastes. Première question, certains veulent aujourd'hui réécrire la constitution cantonale Genevoise. Mais ne faudrait-il pas plutôt écrire une nouvelle constitution régionale qui prenne en compte la réalité sociale, économique, naturelle, géographique de l'ensemble du bassin de vie entre le Jura et le Salon. Et puis si c'est trop ambitieux, alors au moins que la nouvelle constitution genevoise soit écrite dans cette perspective-là, dans cette idée-là, pour permettre que les institutions de la République évoluent, accueillent la possibilité d'une véritable région franco-valdo-genevoise. La deuxième question consulaire, c'est pas vraiment une question, là, c'est une affirmation. C'est que, à l'heure où l'on confond de toute évidence, beaucoup trop souvent, liberté individuelle et égoïsme forcené, où l'on confond liberté individuelle et droit d'exploiter son prochain, n'y aurait-il pas lieu de réécrire la nécessaire solidarité sociale, communautaire, la nécessaire responsabilité de chacun à l'égard de l'autre. En parenthèse, je pouvais le mettre dans une constitution, mais je crains que ce ne soit pas tout à fait le bon ordre. Et puis, lorsque nous aurons répondu à la première question, qui peut être controversée, lorsque nous aurons réaffirmé la nécessaire responsabilité de l'individu, et là je pense que nous sommes tous d'accord, alors à ce moment-là, nous aurons toute une chose à faire, c'est d'avoir le plaisir de relire, mais de relire pour le plaisir, l'amour et l'oxygène.
Monsieur Moutineau a pris la précaution de dire qu'il s'exprimait, que s'il représentait le gouvernement, il s'exprimait à titre personnel. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les instances transfrontalières, je peux vous dire que de songer à une constitution qui le serait transfrontalière est véritablement, je ne dirais pas une preuve de témérité, mais en tous les cas apporte un souffle qui est bienvenu dans une enceinte comme celle dans laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Mais à travers cette remarque de Monsieur Moutineau, on souligne la nécessité, en effet, d'aller beaucoup plus loin que de gérer des accords ponctuels pour notre vie commune transfrontalière. Il y a un autre souffle à imaginer, et merci de l'avoir exprimé de cette façon-là. Nous allons entendre maintenant une pause musicale, et Arthur Honegger, sonate pour violon et violoncelle, interprétée par les élèves du Conservatoire de musique de Genève. Il s'agit d'Émilie Souzeau, violon, de Clément Silquin, violoncelle. Je remercie mes collègues du Conseil de la Fondation, messieurs Veillon et Rivoire, d'avoir rejoint Genève cet après-midi. Et je souligne, à part la présence d'élus de notre pays, celle de France voisine, qui, dans l'esprit souligné par M. Moutineau, sont venus célébrer ce 100e anniversaire de Denis Drouge. Mesdames, nous vous retrouverons avec plaisir en fin d'après-midi avant les conclusions de cet anniversaire. Nous allons entrer dans la partie consacrée aux grands témoins, en quelque sorte. Ceux qui portent tout l'esprit de la Villa Moynier pour l'avoir fréquenté au quotidien. Et c'est très naturellement que je me tourne maintenant vers le professeur Sijanski, président du Centre européen de la culture. Chers amis, c'est avec une très grande émotion. mais en même temps, en ressentant constamment la présence de celui avec lequel je suis l'image, je m'en retenir très souvent depuis 1956 de ces grands problèmes. Ce n'était pas toujours le consensus, vraiment, que l'on pourrait imaginer. Notre point de rencontre était certes de la Fédération européenne, mais il y avait des débats à propos du rôle de l'État, par exemple. Là, je refusais de croire que l'État devait être détruit, d'ailleurs c'était impossible, la preuve est faite par la humanité, et je pense que Denis de Mouvement a beaucoup évolué sur ce thème en acceptant la réalité de l'État comme un des étages intermédiaires, niveau intermédiaire dans une fédération européenne. Denis de Rougemont se proclamait, vous le savez, c'est la liaison avec la Suisse, à la fois citoyen de sa commune, citoyen de Neuchâtel, canton, citoyen de la Suisse et de l'Europe. C'était au fond une conception de l'homme qui a plusieurs loyautés à l'égard de ses différents réseaux de participation dans lequel il vit. La Suisse, évidemment, est restée toujours au cœur de Denis de Rougemont comme une expérience vécue. Mais l'Europe, c'est l'amour-passion. L'Europe, c'est la vocation. C'est le destin de Denis de Rougemont qui s'est épanoui en Europe par sa pensée à la fois et par l'action. D'ailleurs, lorsqu'il écrit « Penser avec les mains », il fait cette liaison, il parle des idées que l'on aime, qui deviennent des passions. Et pour lui, c'est l'Europe que dépeindra cette passion. L'idée fondamentale que je voudrais développer, qui est très connue, d'ailleurs quelques références déjà aux faits et aux idées mentionnées, c'est la relation entre la fédération, le fédéralisme et la culture. La culture, d'après Denis de Rougemont, l'Europe est à la fois commune et très diverse. Et c'est là où se trouve le fondement du fédéralisme. Car la seule forme d'organisation sociale qui correspond à la fois à ce besoin d'unité, d'union, et en même temps à cette indispensable diversité, c'est la fédération. Voilà au fond un élément que l'on trouve. Mais la culture est conçue dans son sens le plus ample. Ce n'est pas la culture uniquement de la musique que nous avons entendue. C'est au-delà, pas les arts, la philosophie, la religion, mais surtout les valeurs qui sont véhiculées dans une région, dans les peuples. Voilà le fondement de cette fédération européenne. Alors je suis heureux quand même de constater, contrairement à ce que certains ont dit avec beaucoup de pessimisme, que la charte des droits de l'homme, des droits fondamentaux notamment, qui a été adoptée par l'Union européenne et qui devait être inscrite, faire partie de la Constitution européenne, elle véhicule la plupart de ces idées des valeurs européennes que Denis de Rougemont a décrites tout au long de sa vie. Et je peux vous dire, dans un témoignage personnel, que José Manuel Barroso tient beaucoup à la culture. Il l'a répété, il participe à beaucoup de réunions culturelles, il réunit des différents représentants des régions, de différentes cultures, de même qu'il est très attaché au dialogue des cultures, qui est au fond une projection de cette idée fondamentale de Denis de Rougemont, où on retrouve la personne, la communauté et l'organisation de vie fédérale. Évidemment que Paris peut jouer un rôle important, situé dans sa jeunesse, c'est le premier engagement, et dès d'abord, on perçoit, au fond, la grande ligne qui sera l'axe de sa pensée, à la fois la personne, l'amour de la personne, l'intimité de la personne, mais aussi l'engagement de cette personne dans une fédération et dans l'ordre nouveau l'ordre dans lequel il vivait à l'époque, dans les années 30, au début des années 40, cet ordre nouveau prévoyait précisément déjà les principes fédératifs. Vous voyez qu'il y a une continuité dans la pensée de ce mouvement qui est exprimée évidemment dans une diversité d'essais écrits. C'est une richesse incroyable, mais le fil conducteur existe, j'en suis persuadé. Bien, Paris n'est pas seulement l'idée, c'est aussi la rencontre avec des personnalités importantes, comme par exemple, nous avons plusieurs des auteurs d'esprit, dans Dieu, nous avons des personnalistes dans la culture et des fédéralistes des sédéralistes. Mais la relation avec la Suisse apparaît là un peu plus ambiguë. On a cité la prison militaire, on a cité l'exil, enfin, entre guillemets, mission de conférence aux États-Unis. Et quel est le résultat de cette mission? D'abord, il parle de la voix d'Amérique pour les Français, en langue française. Il est un des rédacteurs. Et là, il rencontre sur le plan littéraire beaucoup d'écrivains français, dont Saint-Exupéry, qui ont une profonde amitié avec lui, mais aussi Saint-Léger, Saint-Jean-Perse, voilà, poète et auteur, ne l'oublions pas, le fameux mémorandum, un tel mémorandum brillant, qui est écrit sur le thème d'une union fédérale, d'une union fédérale européenne, avec des concepts que nous connaissons. La création continue, le marché commun, la politique commune, etc. Tous ces éléments que l'on va retrouver constamment comme thème de l'Union européenne, eh bien, ils sont déjà présents partout. Deuxième personnage important, certes, est Gounod Kalergi. Gounod Kalergi a créé en 1923 l'Union pan-européenne. Et pour moi, c'est très significatif. C'est le moment où, de l'idée des projets européens, on va passer à l'action. Et c'est là que le mouvement va intervenir, va devenir aussi un interlocuteur de Gounod Kalergi, un des pères de l'Europe, comme nous le savons. Mais l'Amérique aussi lui donnera l'idée de l'Europe. Il dit constamment, il le répète. De loin, l'Europe est une. D'ailleurs, mon expérience de l'Amérique latine prouvait la même chose. En regardant l'Europe, d'abord on est traité en européen et on se sent beaucoup plus peut-être que lorsqu'on est simplement en Europe, ce qui nous paraît tout à fait habituel. La Suisse, je l'ai dit, l'a portée dans son cœur. Mais il a été déçu parce qu'une de ses idées a été district fédéral, la Suisse transformée, district fédéral de la fédération. Bien, je crois que c'est une des idées qui est bien loin d'être accomplie aujourd'hui. Il est de retour en Europe et c'est là où il commence à s'imposer sur la scène européenne. Le premier acte est à Genève. Rencontre internationale, une salle semblable dans celle-ci, où ont lieu ces rencontres, l'esprit européen. C'est là où il fait la profession de foi européenne, fédéralisme européen, de manière très claire devant l'Europe. Il est souvent critiqué, et en sortant de ces réunions où, entre autres, il dit à la radio suisse romande, content de la réunion et content de vos publications, du succès qu'elles ont, il répond, je suis extrêmement content du succès. Téléphone après ça de Burkhardt, ambassadeur de Suisse, lui disant, mais Denis, tu as oublié, en Suisse, il faut être modeste. Or, il n'était pas modeste. Il avait la passion de l'Europe, il la défendait comme oui, également la passion d'écriture de la langue et de la littérature. Dès 1940, place dans l'Union des fédéralistes européens. L'Union européenne des fédéralistes organise entre 1947 un congrès européen qui va être un congrès préparant celui de la haie. Et là, on retrouve les principes fédéralistes. Un rapport de Denis de Mouchemont qui marque toute cette évolution. Quels sont ces principes? Et il ne faut pas oublier que nous sommes en 1947, deux années après la fin de la guerre mondiale. Premier principe, pas de hégémonie. Deuxième principe, évidemment, les libertés que l'on peut imaginer dans une démocratie. Troisième principe très important, il n'y a pas de problème de minorité dans une fédération. Au contraire, les petits cantons d'État sont privilégiés dans une fédération. Plus de voix, eh bien, je constate que, sans le savoir peut-être, l'Union européenne, la communauté européenne, a repris ce principe. Vous savez que les petits États et les moyens ont beaucoup plus de voix proportionnellement au Conseil, qu'ils sont mieux représentés au Parlement européen. Donc il y a un rôle qui a été dévolu à ces États. Je pense que c'est un des aspects où Denis de Mougemont a prévu l'évolution qui correspondait à la réalité. Car on ne citait pas Denis de Mougemont pour introduire cette répartition des voix dans l'Union européenne. Ce qui m'impressionne dans tout ça, bien d'autres aussi, c'est la force des idées et l'action qui va se développer en même temps en Europe, après la résistance, on parle beaucoup de fédération notamment, l'action qui se développe, ce sont des mouvements, différents mouvements, idéologiques, partisans, culturels, économiques, se développent. Même émergence de mouvements, c'est pour ça que je rappelle constamment, l'Europe n'est pas née uniquement en haut, comme on le prétend dans l'histoire traditionnelle que l'on entend notamment souvent à l'Union européenne. Non, elle n'est pas née uniquement de Jean Monnet, elle est née de cette convergence de deux mouvements. Le premier, 1948, beaucoup plus fédéraliste, qui visait à la création d'une Union européenne globale, fédérale, dès le départ. Et l'autre, Jean Monnet, beaucoup plus pragmatique, qui pensait aboutir à la fédération pas à pas, en mettant en place différents projets et en entraînant les uns et les autres dans le processus de l'intégration. Là, nous avons un exemple de l'importance de ce personnage. Je suis toujours en admiration devant ce grand écrivain qui est au premier plan, comme le montre une des photos ici, derrière Churchill, qui joue un rôle puisqu'il est rédacteur du manifeste européen, rédacteur du message que nous avons entendu. Et dans le message, vous avez tout un programme qui va être progressivement réalisé. Certes, toute réalisation est en deçà de l'objectif que l'on s'est proposé. N'empêche, il y a une Europe qui marche. C'est personnellement. Denis de Rougemont, dès 1950, crée le centre et une des réunions après le terme, une des premières réunions portera sur la constitution fédérale de l'Europe. C'est un projet qui a été établi, envoyé au gouvernement. Malheureusement, il n'a pas eu de suite parce que la CEG intervient en 1954 et toute la dimension politique européenne est laissée de côté. C'est le redémarrage de l'économie européenne et de l'aspect technique de l'intégration. À cela se base greffer, on l'a mentionné, le concept de subsidiarité. Il répétait constamment, le sénateur américain, Moyan, pas beaucoup, qui disait que, comme tout à l'heure je vous dis, bah, il faut à chaque étage, mais ce qui est important, c'est que pour Denis de Mougemont, ça allait dans deux sens. Pour beaucoup, par exemple, pour les Britanniques, ou quand on dit en Suisse, fédéraliste, liberté, certes, répartition aux communes et aux régions. Mais en même temps, lorsque un État, lorsque les unités de base n'avaient pas la capacité, l'autre pouvoir créer plus de pouvoir. Et c'est ainsi qu'il explique très clairement que ces États, lorsqu'on monte, on est obligé de créer plus de pouvoir. Deuxième élément important, ce concept de subsidiarité, qui est curieux, on le retrouve aujourd'hui. D'abord, dans le projet de 1984, donc, tout le monde l'a connu, ce projet Spinelli, Spinelli souvent collaboré avec lui. Dans ce projet d'Union européenne, il y a l'idée précisément du principe de subsidiarité qui est admis. Deuxièmement, on retrouve les principes et l'affirmation de plus en plus claire de cette subsidiarité, ambiguë dans les deux sens, mais elle est présente dans les différents pays. Et dans la constitution, le projet de constitution, elle avait une place de choix. Donc, il y a des idées qui se sont infinies, mais je prétends que ceux qui les ont pensées, qui les ont inscrits, qui les ont communiqués, n'étaient pas conscients qu'ils faisaient fédératif. Ils le faisaient comme Jourdain, ils faisaient de la prose, c'est-à-dire sans le savoir, ils se référaient au principe de base du fédéralisme. Deuxième aspect qu'on a mentionné tout à l'heure, la région. Et il aura tout, la région. Premier élément de la région, il le trouve dans le livre « Penser avec les mains ». Lorsqu'il le réédite plusieurs années plus tard, il dit « Mais tiens, la région était déjà présente dans ce manifeste de penser avec les mains, c'est-à-dire agir aussi pas. » La région, elle a quand même fait quelques progrès, malgré quelques idées un peu pessimistes que vous avez dit. Elle a fait des progrès, vous l'avez dit, dans la fédéralisation de plusieurs États. La Belgique est devenue fédérale, pratiquement. L'Espagne est en train de se fédéraliser. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie connaissent une sorte de régionalisation, certes différente selon les esprits, selon les contextes, mais il y a un mouvement dans le sens de que nous avons toujours mentionné. L'État est trop petit pour faire de grandes choses qui le dépassent, même en France, l'Allemagne, etc. Mais il est trop grand, donc il doit se régionaliser à l'intérieur, se fédéraliser à l'intérieur. Voilà donc le chemin que l'on perçoit à travers. Deuxièmement, il a proposé un Sénat des régions. Certes, vous savez, les Länder allemands, lorsqu'on a négocié Maastricht, avaient proposé eux aussi un Sénat des régions. Ça n'a pas été retenu pour cause. On y voyait une part trop grande atteinte à l'État, l'importance de l'État. Or, ce qui s'est passé,